une création.
Blast.
Seul comme toi, un podcast de Lou Robert, réalisé par Vincent Deck. On est tous seuls, à un endroit, sous notre peau, dans notre lit, dans le froid, dans nos oui quand on nous demande si ça va, dans notre tête, dans la foule. L'idée de ce podcast est de donner du sens à nos solitudes, ou du moins, les faire entendre. L'idée, c'est d'être seul ensemble.
Alors, je m'appelle Mireille, j'ai 54 ans, j'ai 4 enfants, je vis à Tours.
Épisode 14, Mireille, une femme de rien. Première partie, une longue descente aux enfers.
Je suis dans une phase de ma vie un peu compliquée et je traverse, voilà. Je suis un peu encore très fatiguée. Et il y a un retour de vie où là je suis hébergée chez mes enfants. J'ai l'impression que j'ai plus rien à moi, j'ai juste les habits qui sont dans ma valise. Alors ça fait un peu drama, mais voilà, il s'est passé une prise de conscience et qui m'a menée, j'espère, vers une nouvelle vie.
Je rencontre Mireille un après-midi chez moi. J'ai préféré laisser Penny à mon mari. Mireille m'a prévenu craindre les chiens. Je lui ouvre et je comprends que sa peur ne s'arrête pas aux bêtes à quatre pattes. Comme si toute la lumière de cette femme avait été aspirée, pour laisser cette créature apeurée, endolorie sur le pas de ma porte. Je l'invite à entrer. Elle me suit au salon. Dans son dos, j'inspire, j'expire. On s'installe. Beaucoup de douceur émane d'elle, de sa voix. Beaucoup de douleur aussi, de son corps. Mireille n'a aucune confiance en elle-même. Elle s'excuse presque d'être là, n'est pas sûre que son histoire en vaille la peine. Je la rassure, toutes les histoires en valent la peine. Elle a cette façon de regarder, qui dit pardon, c'est de ma faute, je ne mérite rien, je ne suis rien. Ce besoin d'amour, de tendresse, c'est bouleversant. J'allume mon enregistreur, mets mon casque sur les oreilles. Sa voix plus intense. Dans son souffle, j'entends un cri. Un cri refoulé, étouffé. J'ai une boule au ventre. Je crois qu'elle aussi. J'appuie sur play, m'apprête à plonger dans son histoire. Une histoire d'emprise, où la violence psychique côtoie la folie. L'histoire d'une femme qui ne demandait qu'à être aimée.
J'ai vécu plus de 30 ans avec un homme et j'étais toute seule dans cette histoire. Et je ne croyais pas que j'étais toute seule. Et je disais que j'aimais bien la solitude parce que j'aime beaucoup aller au cinéma toute seule, j'aime beaucoup. Ça ne me dérange pas d'être avec moi-même. Mais en fait, je crois que je faisais semblant, que je m'accommodais du fait que lui, il n'était pas là, pas souvent, que j'étais toute seule chez moi quand les enfants sont partis, que c'était très douloureux. Et après, j'essayais de combler la solitude en étant efficace. Donc, je faisais plein de choses pour ne pas me rendre compte que j'étais seule. Je suis devenue un bourreau de jardin, j'avais plein de plantes, je cultivais. Je suis allée au bout de la fatigue pour ne pas voir que j'étais seule, en fait. Et je m'accrochais au fait que je ne vivais pas seule. Et il y avait toujours beaucoup de bruit, beaucoup de mouvement avec moi, avec les enfants. Puis quand les enfants sont partis, je me suis retrouvée dans ce couple et j'étais très seule. Et du coup, mon mari a ouvert les vannes de l'horreur. Parce que quand les enfants étaient là, ça cachait un peu ce couple monstrueux que nous étions et le fait qu'il avait plusieurs doubles vies, qu'il ne m'aimait pas, mais qu'il ne savait pas quoi faire de moi parce que je l'encombrais. Et moi, je me taisais parce que je n'osais pas partir. Je n'osais pas partir parce que j'avais dans ma tête, j'étais rien et je ne pouvais pas être... si je n'étais pas avec lui, j'étais rien. Pendant très longtemps, j'ai été une femme au foyer. Et ça aussi, c'est compliqué d'être une femme au foyer. Ça augmente la solitude. Alors, c'était compliqué. C'était très rythmé par... Alors, je crois que j'étais une mère parfaite pour combler le vide de mes journées, quoi. Ouais. J'ai surinvesti la fonction maternelle. Voilà, je faisais des goûters parfaits, je faisais le ménage, tout était nickel. J'ai jamais fait manger un de mes enfants à la cantine, même quand j'avais les béquilles, même quand... Rien, quoi. Il fallait donner un sens et ça n'avait pas de sens. Et je me raccrochais à cet homme pour qu'on soit deux, parce que c'est ce que je voulais profondément. Et au plus je m'accrochais, au plus je m'enlisais, parce que j'étais toujours toute seule. Et j'étais toute seule, il savait. Et ce qui me disait que je n'arrivais pas, je n'adhérais pas au processus, c'est que comme lui et moi, on ne faisait pas un, on ne faisait pas deux, on ne faisait rien. Donc il m'encourageait à avoir des amants ou pour le laisser tranquille. Mais moi, je ne pouvais pas aller voir d'autres hommes parce que j'étais rien, parce que voilà, j'étais toute seule, ou parce que c'était pas facile de ce rapport au corps, à la solitude. Alors j'attendais, il partait le soir, soi-disant il allait faire du sport, soi-disant il allait faire la fête avec des amis. Mais en fait, au sport, c'est là où j'ai découvert qu'il avait une première. Il avait une équipe mixte et il sortait avec une fille de l'équipe. Puis il partait beaucoup parce que les enfants et moi, on était un poids pour lui. Donc il partait beaucoup, il partait 3 mois chez un copain, puis il revenait, puis il repartait 6 mois parce qu'on était un poids pour lui. La famille était un poids.
Il le disait.
Il le disait, bien sûr. Oui. Et ma vie, elle était vraiment. J'ai commencé un peu à perdre pied quand mes deux dernières sont devenues grandes, qu'elles ont eu moins besoin de moi au niveau des faire à bouffer, au niveau de tout ça. Et que lui, il a commencé l'horreur de dire que j'étais rien, qu'il cherchait d'autres femmes. Et...
Il disait quoi, en fait ?
Ben, il dénigrait mon corps. Mon corps, il était plus aux normes, puisqu'il avait fait passer 4 enfants. Mon vagin, il n'était pas aux normes standards. Il était trop large, trop...
Qu'est-ce qu'il disait ?
Oui. Et en plus, par-dessus tout ça, c'est un homme qui boit beaucoup et qui fume. Donc moi, il me voit toujours en conscience modifiée. La violence, elle est décuplée. Et moi, j'encaisse et je prends. Parce que j'ai peur d'être toute seule. Et que je suis bonne à rien. Je ne peux rien faire par moi. Je ne peux pas prendre de décision. Les seules décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est le choix du prénom de mes enfants. J'étais dans une telle perte de décision que moi, j'adore les tatouages. En fait, je n'avais plus le droit de faire des tatouages parce que l'argent que je mettais dans les tatouages, c'est pas de l'argent que je mettais dans la collectivité. Et ben, je me faisais crier si je faisais un tatouage parce que c'est le dernier que tu vas faire, parce que il faut acheter des outils. Pourquoi j'acceptais tout ça, quoi ? C'est une sorte de relation comme ça, pourrie.
Il t'a déjà dit je t'aime ?
Jamais. 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 Et même quand nos enfants sont nés, il n'y a jamais eu de moment de joie. Tout était douloureux, tout était lourd, tout était pénible, tout était... Jamais. Non. Il allait jusqu'au bout de l'horreur en me disant « Mais comment tu peux avoir envie de rester avec moi avec tout ce que je te fais vivre ? T'es pas clair, c'est pas net, ton amour n'est pas normal, tu ne m'aimes pas, c'est pas possible. » Parce que moi, je lui disais que je l'aimais. Et il lui disait « Mais avec tout ce que je te fais, ton amour est malade, tu peux pas m'aimer. » C'est un drôle de bordel, hein. C'est un drôle de truc. Oui. Mais seule sans lui, projeter ma vie seule sans lui, je ne pouvais pas. C'est ça qui m'a fait accepter l'horreur. Et au plus il voyait qu'il avait de prise sur ça, au plus ça, je pense qu'il a une maladie mentale ou quelque chose qui s'est ajouté, au plus c'était des paroles très violentes et blessantes. Et il me laisse sur tout le temps sur ces paroles blessantes ou quand il me raconte qu'il rencontre une autre femme. Il y a eu vraiment une montée de la violence verbale, enfin de tout ce qu'il pouvait me dire et que je me prenais dans la figure et que je taisais parce que je n'arrivais pas à prendre la décision de partir. Une fois, il y a eu une dispute très violente et il y avait une de mes filles, je ne savais pas quoi faire. J'ai pris une valise, j'ai rempli la valise et je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas où aller, c'était 19h, il fallait prendre un train, je n'ai pas le permis, ma fille non plus. Et ma fille me disait, mais maman, ne t'inquiète pas, tu viens chez moi parce que c'est des grands enfants. Et moi, je ne voulais pas aller chez ma fille parce que je ne voulais pas peser à ma fille. Et je ne savais pas quoi faire. Ça devait être en août ou septembre. Les crises devenaient de plus en plus fortes, la violence était de plus en plus forte. Alors j'étais là avec ma valise, je remplissais ma valise, je hurlais dans la maison. Ben j'étais en dehors de moi, quoi. J'étais dans une espèce de sidération et mon enfant voyait ça. Et lui, il voyait que de toute façon, je ne savais pas où aller. Et il disait, de toute façon, tu ne peux pas vivre sans moi, tu ne vas pas tenir 3 mois. et par la solitude que ça va générer, et par le fait que économiquement, tu es incapable de vivre sans moi. Tu ne peux pas être seule. Et puis, où tu vas aller, là, avec ta valise? Tu vas aller chez les femmes battues? Je te frappe pas. Juste la maltraitance psychologique, mais ça n'avait pas de poids. Et je me suis retrouvée con. Ce jour-là, on s'est endormis après, et on ne partageait plus la même chambre depuis très très longtemps. Il y a aussi la solitude des corps. Lui, il allait se mettre dans des bras d'autres. Mais moi, ça fait très longtemps que plus personne ne m'a pris dans ses bras. À part mes enfants, mais c'est pas le même contact. Et je dormais toute seule. Et cette nuit-là, il est venu hurler sur moi à 4h du matin. Et t'es pas parti, qu'est-ce que tu fais? Tu es encore là, tu vois, tu peux pas être seule sans moi. Et le lendemain, comme si de rien n'était, il a dit, on a passé une mauvaise journée, aujourd'hui, nous allons pique-niquer. Puis on est parti pique-niquer, parce que c'était normal. Et puis on accompagnait ma fille qui devait dormir chez une copine, dans un village à côté de là où on était. Puis on est rentrés tous les deux. Et on a encore élaboré des stratégies, parce que depuis 2018, on avait instauré quelque chose. Tous les dimanches, on partait tous les deux, on prenait la voiture, on allait au bord de Loire. Et on élaborait des stratégies, comment faire pour que cet homme me quitte sans que je sois un poids pour moi et pour lui. Et on passait nos dimanches après-midi à élaborer comment, pauvre homme, je pouvais faire pour disparaître, en fait. Pour qu'il soit seul, parce que lui, il voulait être seul sans moi. Et au final, ben, il ne pouvait pas être seul, parce que j'étais cette femme qui traînait toujours. Et moi, je pleurais, c'était atroce. Et lui, il me disait, mais ma pauvre fille, comment tu veux que... Je peux pas te laisser, je peux pas t'abandonner. Je suis quelqu'un de bien, je suis responsable, finalement, de toi financièrement, des enfants. Et je peux pas partir, et c'est terrible, et comment je vais faire pour partir? Il va bien falloir qu'on y pense, mais on faisait que ça. Puis la fin du monde est arrivée, donc on a accéléré l'urgence pour acheter une maison, parce qu'il fallait acheter une maison bunker pour la fin du monde. Donc les maisons, elles étaient très loin, et moi je pouvais pas être indépendante, puisque si j'ai pas le permis, je peux pas vivre trop en campagne. Donc j'étais encore un poids, parce que on pouvait pas acheter n'importe quelle maison, puisque moi je pouvais pas être en campagne. Mais ça allait plus loin à la fin du monde, parce que ça allait aussi jusqu'au délire qu'il fallait que nos enfants arrêtent les études, parce que ça servait à rien, on allait mourir. Donc il fallait tous qu'on se retrouve dans la maison de la fin du monde pour faire des bocaux et pour cultiver le jardin. Parce que c'est une des rares personnes au monde à avoir compris que c'est la fin du monde et qu'on va tous mourir. Et donc les systèmes systémiques, tout va s'effondrer, donc ça va être peut-être le système financier, peut-être qu'on va manquer d'eau. Et il va y avoir des effondrements en cascade qui vont faire qu'à la fin, ça sera Mad Max. Et mon mari était très inquiet de nous voir mourir de la soif. Donc il avait des stratégies d'empoisonnement. Il voulait parfois, parce qu'il ne fallait pas qu'on meure de soif, préparer les choses pour pas qu'on ait trop à souffrir. Oui. Oui. J'adhérais au process, parce que j'avais tellement peur qu'il me quitte. Et au fur et à mesure, j'ai coupé avec ma famille. J'étais seule. J'avais personne pour dire à quel point j'allais mal. J'avais quelques amis qui me disaient que c'était pas normal ce que je vivais, qu'il était méchant avec moi, que la façon qu'il avait de me parler était pas normale, qu'il me rabaissait tout le temps. Mais moi, j'ai arrêté un peu de voir ses amis, quoi. Je voyais plus personne parce que j'avais tellement honte de la façon dont il me traitait devant les gens. Il me rabaissait continuellement, que je faisais plus jamais venir personne.
À ceux qui se demandent pourquoi Mireille n'est pas partie, visualisez une bête qui s'insère dans votre tête et vous dévore de l'intérieur. Une vie écouter l'homme qu'elle aime, la traiter de monstre, l'entendre soupirer parce qu'elle existe, parce qu'elle respire le même air que lui, se trouve dans son champ de vision. C'est l'enfer. Des journées à attendre d'être aimée, considérée. Un enfer sans flamme, sans fin. Un enfer quotidien. Je la regarde boire une gorgée de thé, je vois la destruction. Destruction d'un corps, d'un être, une femme démantelée, pierre par pierre. 30 années de pillage, destruction lente et sournoise. Je vois une femme ravagée par les larmes et la peur. Je cherche la lumière dans son regard. À cet instant, je ne la trouve pas.
Tu l'as rencontré à quel âge ?
Je l'ai rencontré, j'étais en terminale. Et lui, il était en seconde. C'était un copain de mes frères. Et on n'est pas sortis ensemble tout de suite. Je pense qu'on est sortis ensemble quand je suis partie, oui. L'année d'après, j'ai eu le bac et je suis partie à la fac. Et là, on est sortis ensemble.
C'était comment au début ?
Je crois que j'étais contente qu'un garçon s'intéresse à moi. Parce que j'avais une histoire un peu compliquée, mais je le savais pas trop. Avec des abus, et puis des histoires dégueu avec des garçons quand j'avais 16 ans. Mais lui, il était gentil. Je sais pas, il avait l'air de m'aimer, il avait l'air disponible. Je pense que à l'époque, je fumais beaucoup et je buvais beaucoup. Tant que j'étais quelqu'un d'autre. Et je fumais vraiment beaucoup parce que parfois j'avais l'impression que je partais dans des délires, j'avais l'impression que je sentais plus mes jambes. Et puis j'ai voulu arrêter et j'ai fait un très mauvais délire pour mes 21 ans, je crois. J'ai voulu arrêter, mais je pouvais pas arrêter comme ça, c'était trop violent, il a fallu les cacher parce que la consommation de shit et d'alcool, elle était, depuis que j'avais 16 ans, elle était vraiment hallucinante. Et les antidépresseurs, les anxiolytiques, pardon, j'en consommais beaucoup comme des bonbons. Dès que j'allais mal, j'en prenais. Et après, j'ai arrêté les cachets parce que je voulais un enfant. Et il dit qu'à partir du moment où je suis tombée enceinte, il a dit que j'étais devenue beaucoup moins drôle. Et je n'ai jamais repris le shit et l'alcool. Donc je suis restée beaucoup moins drôle. Donc depuis 1997, ma première grossesse, 96. Bah, j'étais moins drôle, quoi. Et donc, je suis devenue quelqu'un d'impossible à vivre, soi-disant. Hein, quand je suis tombée enceinte de ma fille, on a arrêté de dormir ensemble, parce que la nuit, il me donnait des coups, je crois que c'était l'excuse. Et on n'a plus jamais dormi ensemble dans le même lit.
Donc, depuis 25 ans.
Oui, donc j'avais 30 ans. Puis ça, c'est forcément qu'après, lui, on n'avait pas forcément des chambres pour tout le monde, parce qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup d'enfants, peu d'espace. Donc lui, il a investi le salon. C'était douloureux et en fait, moi, j'ai toujours le sentiment que j'étais femme de rien. J'étais rien sans lui et tout était... Tout ce que je faisais, tout ce qui occupait ma tête, et même encore maintenant, parce qu'il y a encore ce système d'emprise qui est encore dans ma tronche, tout ce que je faisais, c'était en fonction de ce que lui, il allait penser pour avoir une reconnaissance. Et en fait, il ne reconnaissait jamais ce que je faisais. Quand j'ai commencé à avoir cette maison qu'on a achetée en 2021... il fallait faire le jardin pour la fin du monde. Je suis devenue très efficace au jardin. Peut-être plus de 210 kilos de légumes j'ai récolté l'été dernier. Parce que c'était un truc, c'était une obsession. Il fallait qu'il me reconnaisse dans ma capacité de lui faire plaisir et d'adhérer à tout le temps à son discours. J'étais rien. Et j'étais jamais reconnue. Ce que je faisais, c'était jamais bien. Et j'étais toujours là. Et en même temps, il fallait que j'étais toujours là. C'était le reproche qu'il me faisait. J'étais là dans ma maison, mais j'étais là. Il fallait pas que je sois là. Ma présence... Mon omniprésence était trop. Donc c'était normal qu'il fallait qu'il s'estrait de ma présence et qu'il aille rencontrer d'autres femmes. Et c'est vrai que cette maison, moi je pensais qu'elle allait, ça allait être la première fois où on allait vivre sans les enfants parce que du coup ça a coïncidé avec le moment où les enfants, les dernières, sont partis à la fac. Et j'avais l'espoir que quelque chose se passe. Moi j'espérais toujours qu'il allait me regarder. Et rien. Lui il cherchait... des clubs pour aller défouler ses pulsions, des endroits où il ne m'emmenait pas, des fêtes avec des copains, des bars alternatifs dans la campagne, des choses où moi je n'avais pas accès parce que... je ne sais pas.
Il te disait ce qu'il faisait ?
Oui. Qui buvait, qui fumait, qui dormait dans la voiture, donc moi je ne pouvais pas y aller parce que je n'étais pas tout terrain, que je le gênais. Et en septembre, ça s'accélérait, cette ambiance qu'on avait, cette solitude, j'étais de plus en plus seule. Une de mes filles me disait hier que parfois elle venait à la maison, elle se forçait entre guillemets parce qu'elle savait que j'étais seule et que ça lui faisait de la tristesse. Donc elle venait pour passer le week-end avec moi, pour pas que je sois toute seule. C'est douloureux quand les enfants ils disent ça, quand je me dis merde, je suis un poids pour les... Enfin, non, c'est de l'amour en fait, mais... Et moi je me revois dans cette maison, elle était immense en plus, j'avais peur quoi, je me sentais pas bien, j'étais seule. J'étais seule.
J'ai la vision de la tête de Mireille, emprisonnée dans un bocal. Le visage crie, mais personne ne peut l'entendre. Son mari la contemple. Il enferme le bocal dans un placard. Tous les jours, il le ressort et lui répète les mêmes mots, les mêmes horreurs, en boucle. Mireille s'enfonce dans la folie.
Et puis, fin septembre, il avait un week-end de prévu, comme un week-end, tous les week-ends, quoi, en fait. Elle avait toujours des trucs prévus. Et il se préparait pour partir. Donc, ça veut dire qu'il prenait la voiture et il allait avec la voiture chez des copains, je ne sais pas où, parce qu'il avait des tas de copains partout autour de là où on habitait, alors que ça faisait qu'un an qu'on était là. Et puis, je ne sais pas, il allait. Qu'est-ce que je pouvais dire ? J'ai bien essayé au début d'aller avec. Il y avait un copain que je connaissais qui m'invitait des fois, mais lui, il disait non. Et il se préparait, puis on était dans le jardin, et je lui dis, c'est bizarre, tu vas rencontrer quelqu'un, mais un peu comme, je prouve pour qu'il me dise non, en fait. Et là, il me dit oui, qu'il a rencontré quelqu'un, et que c'est magique, que cette personne est apparue dans sa vie, alors il faisait un mystère, je ne savais pas si c'était un homme, une femme, et que c'était vraiment magique, et que si je l'aimais, je devais accepter cette personne. Alors il me dit ça, il me lâche ça, c'est très violent. Et il s'en va à sa soirée, je pense, avec cette personne, que je ne savais pas que c'était une femme au départ. Et moi, je reste dans le jardin, dans la maison. Et là, je glisse. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et je me dis que je ne pourrais pas vivre sans lui, que ce n'est pas possible, que comment je vais faire. Et puis je me dis que, ben oui, de toute façon, ça fait tellement d'années qu'il me dit que je ne suis pas aimable, que je suis moche, que je suis un monstre, que je m'habille avec des robes à fleurs qui sont pas sexy, que j'ai aucune idée du sexy, que je dégage rien, je suis bonne à rien, juste à faire des bocaux, à stériliser des trucs, à planter des légumes, à faire des ratatouilles. Je savais pas quoi faire, je me suis retrouvée là et je lui donnais raison. Et j'étais toute seule dans la maison et je me disais dans ma tête, mais il a raison, de toute façon, ça fait déjà depuis 2018 qu'on n'a pas d'intime, donc c'est normal, il a des besoins, moi je n'ai pas de besoin, je n'ai pas besoin d'être dans les bras de quelqu'un, c'est nier. Ça va le faire, je vais passer ce cap. Et il me disait que c'était normal, que dans les vieux couples, c'est comme ça que ça se passait, que les hommes, ils allaient voir d'autres femmes et qu'il y avait une tendresse entre nous qui n'existait pas, parce qu'il n'y avait jamais de moment tendre, puisqu'il y avait... Après avoir passé tous nos dimanches au bord de Loire pour savoir quelle stratégie on allait mettre en place pour qu'il puisse me quitter, on passait tous nos dimanches dans la maison, puisqu'il n'y avait plus les enfants, et on avait enfin acheté cette maison, où là aussi, il fallait trouver des stratégies pour qu'il puisse partir. Et moi, ça me rendait folle, j'en pouvais plus, j'avais pas d'argent, j'avais peur, je ne savais pas quoi foutre. Et là, je me suis enfermée dans ma chambre, et j'étais dans un état second. J'ai été... Je sentais vraiment que j'allais mourir, quoi. Qu'il fallait que je meure, que je disparaisse parce que j'arrivais pas à vivre sans lui. Et qu'il partait, quoi. Que la proposition de vivre avec une autre... on n'était pas trois, quoi. Moi, j'étais toute seule et lui, il était avec l'autre. Et j'allais être encore plus... Ça allait encore plus renforcer ma solitude d'être toute seule à la maison et lui, de le savoir avec une autre. Une autre qui l'aimait alors qu'il verbalisait le fait que j'étais pas aimable. J'ai appelé mes filles... Elles n'ont pas répondu, la première n'a pas répondu, la deuxième non plus, la troisième a décroché. Elle était avec la deuxième. Il fallait que je me raccroche à des voix parce que je sentais que j'allais mourir. Il fallait que je meure. Et il est revenu. J'ai raccroché à mes enfants, j'ai parlé un peu, j'ai raccroché à mes enfants. Je ne leur ai pas dit ce que j'avais. Et donc, j'imagine qu'il a passé la nuit, la soirée de samedi, la nuit avec cette femme. Il arrive le dimanche, ça devait être, je ne sais pas, 15h, 16h. Et son obsession, c'était... Il y avait une foire à l'ail, et il fallait aller à la foire à l'ail. Tu viens, on va à la foire à l'ail. Et moi, j'étais ravagée par ce qu'il m'avait dit la veille. Il était allé passer la nuit, je pense, avec cette femme. Et là, il fallait qu'on s'habille, que je parte, que je m'habille, que je parte à la foire à l'ail, alors que j'avais pleuré pendant 24 heures. J'ai dit que je ne pouvais pas y aller. Et lui, il faisait comme si de rien n'était. Il est parti à la foire à l'ail. Je me suis de nouveau sentie toute seule. J'étais vraiment seule. La maison, elle était immense. Il commençait à faire nuit. Il est arrivé, on a mangé. Je ne sais pas si on a parlé, rien, parce que j'étais dans un état vraiment... On est allé se coucher, chacun dans sa chambre, et puis le matin, je me suis levée à 4 heures, parce que je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrive pas à dire dans l'état que j'étais de dissociation, quoi. Il s'est levé, et il m'a vu, il est parti travailler. Moi, j'étais dans le fauteuil, à la cuisine. Et je ne sais pas ce qui s'est passé jusqu'à ce que... Jusqu'au début de l'après-midi, ça c'était lundi, jusqu'au début de l'après-midi de lundi, où mon obsession, c'était mourir. Il fallait que je disparaisse. J'étais de trop. J'étais seule et de trop. Et j'avais pas une amie à qui téléphoner. J'avais pas ma famille parce qu'ils étaient hors de mon champ de vue et hors de mon champ de cœur, puisque ils avaient disparu pour moi. Parce que j'étais rien, j'étais devenue rien. C'est ça qui est ahurissant, quoi.
Mireille veut disparaître. Elle veut bien faire. Disparaître ? Oui, c'est ça. Alors peut-être que son mari la considérera. Là, peut-être qu'il l'aimera. Le bocal se fissure sous la pression de sa souffrance. Plus rien n'a d'importance. Mireille est au bord du précipice, s'apprête à sauter pour ne jamais revenir. Vous pourrez écouter la suite de l'histoire de Mireille dans le prochain épisode. Seul comme toi, un podcast de Loulou Robert, réalisé par Vincent Deck. Et si vous avez aimé ce podcast, que vous pouvez écouter et télécharger sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous rendre sur le site de Blast, où vous pourrez vous abonner si vous voulez que l'expérience sonore et éditoriale continue.
Une création
Blast.